Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La révolte populaire de 2011 a eu raison du régime Ben Ali en Tunisie, mais aussi des objectifs et des méthodes répressives des services de renseignement. Les attentats de 2015, notamment au Bardo, ont accéléré le mouvement de la transformation, mais il reste un défi de taille, obtenir la reconnaissance de la population tunisienne dans le cadre du nouveau contexte démocratique des institutions politiques. Les services de renseignement, c'est le thème du nouveau numéro de notre partenaire, la revue trimestrielle Moyen-Orient. À suivre également dans l'émission la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Flavien Bourrat.
Bonjour.
Chercheur sur le Maghreb et le Moyen-Orient à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire à Paris. Le dernier numéro de notre partenaire, la revue Moyen-Orient, est consacré aux renseignements dans la région Moyen-Orientale et au Maghreb. Et vous signez un article consacré spécifiquement à la Tunisie. Comment passer d'un état policier à un état de droit ? Flavien Bourrat, est-ce que cet objectif ambitieux date de la révolte de 2011 contre le président Ben Ali ?
Oui, tout à fait. Comme vous le savez, la Tunisie représente à la fois la matrice de ces soulèvements en chaîne qui sont déclenchés à l'hiver 2011, mais aussi le laboratoire de l'expérimentation d'une transition démocratique, d'une sortie de l'autoritarisme dans le monde arabe. Et à ce jour, la Tunisie reste d'ailleurs le seul pays qui continue cette expérience. Alors, on le voit, c'est assez délicat, ça présente aussi des risques, il y a beaucoup d'incertitudes, mais le processus continue. Alors, bien entendu, pourquoi la question du renseignement et de la sécurité occupe une place aussi importante dans cette transition? Eh bien, d'abord, d'une raison objective, c'est que les services qu'on appelle services secrets, mais moi, au fond, j'appelle plutôt services de renseignement ou plutôt services de sécurité, occupaient aux côtés, notamment des forces armées, une place absolument essentielle dans le fonctionnement des États du monde arabe contemporain, aussi avec un poids, une influence au sein même de la société. Et la Tunisie de Ben Ali, donc, présentait cette caractéristique d'un pays à la fois assez fortement ouvert sur l'extérieur, au tourisme, à l'économie, mais en même temps, c'était un véritable État policier. Le poids de l'appareil de sécurité de renseignement, et disons-le, de la police politique, était tout à fait important, presque tentaculaire, pouvait-on dire, à l'échelle d'un pays qui est d'une petite dimension.
Mais alors, Flavien Bourrat, en quoi la Tunisie post-autoritaire était-elle un cas d'école en matière de sécurité nationale ? Vous dites dans votre article, c'est un cas d'école. Ça ressemblait beaucoup à ce qui se passait en Europe de l'Est, c'est cela ?
Oui, certains avaient, il y avait une formule, avaient coutume de dire, au fond, c'est la Tunisie de Ben Ali, c'est la Roumanie de Ceausescu, moins les exécutions, ou, voilà, les aspects, disons, les plus violents. C'est vrai que ça pouvait rappeler, paradoxalement, dans un pays, encore une fois, un pays ouvert, des pays d'anciens régimes communistes. Alors, cet appareil de sécurité, c'est d'abord très important, il faut le remarquer, il était essentiellement un appareil policier, civil. Cela remonte à ce qu'on a désigné en Tunisie sous l'appellation de doctrine Bourguiba. Quand Habib Bourguiba accède à la tête de la Tunisie indépendante, il voit très vite le danger qu'il y a d'avoir des forces armées trop puissantes, trop influentes. Il voit aussi ce qui se passe dans les autres pays arabes, notamment en Égypte, en Irak, mais aussi plus tard en Algérie et en Libye. Et donc, en fait, il va bâtir un système de contrôle, à la fois de contrôle de la société et un système de sécurité de renseignement, qui sera essentiellement à dimension civile et s'est confié au ministère de l'Intérieur et de la Police.
Alors cela veut dire quoi, civil ? C'est-à-dire qu'il fallait surveiller les gens, surveiller les opposants par exemple ?
Oui, au départ, comme d'ailleurs dans l'ensemble des pays arabes, le rôle des services tunisiens avait une mission première, c'était d'assurer la pérennité du régime. Et pour ce, évidemment, contrôler, surveiller et éventuellement neutraliser toute forme d'opposition. Enfin, toute forme d'opposition, il y avait quelques petites soupapes, mais grosso modo, on était dans un système autoritaire. Et toute forme d'opposition, aussi bien à l'intérieur du territoire tunisien, mais également à l'extérieur, notamment au sein des communautés immigrées en Europe et notamment en France.
Et vis-à-vis des voisins, l'Algérie,
alors,
la Libye ?
C'est là où toute la complexité de ces services, c'est-à-dire qu'à la fois il y avait très clairement, et cela s'est encore plus développé à l'époque de Ben Ali, qui, je le rappelle, qui a fait toute sa carrière dans l'appareil policier et dans l'appareil de renseignement, il avait ravi tous les échelons, donc c'était un homme du métier, il connaissait parfaitement le système et la maison. Bien sûr, l'ambiguïté, c'est que ces services avaient à la fois un rôle de police politique, donc un rôle coercitif, mais également un rôle qu'on retrouve dans tous les pays du monde, qui est au fond de protéger et de défendre les intérêts de la sécurité nationale à l'intérieur et à l'extérieur du territoire. Alors, le volet renseignement est évidemment, je pense, assez faible à l'extérieur, mais il y avait quand même un travail de surveillance, de veille et d'éventuellement de contre-ingérence, notamment vis-à-vis des voisins, je pense à l'Algérie et à la Libye.
Mais alors, la population tunisienne, à cette époque, donc avant 2011, avait certainement une opinion assez faible de ces services de sécurité, qui étaient surtout des services répressifs.
Ces services étaient très très peu connus, c'est-à-dire que c'était un, d'ailleurs dans les autres pays aussi, on remarque le même phénomène, c'était un non-sujet, c'est-à-dire quelque chose dont on ne parlait jamais en public, on le savait qu'ils existaient, on les craignait, mais il y avait une sorte de tabou, une sorte de brouillard autour, entretenu aussi à dessein. Vous savez, comme avait dit De Gaulle, on ne révère vraiment que ce qui est quelque part, il faut qu'il y ait une distance, un secret, à raison de plus quand ce sont des services qui ont vocation à surveiller les citoyens, ce qui était le cas. Un des aspects les plus flagrants de l'appareil de renseignement sous Ben Ali était effectivement une surveillance exercée sur chacun. Alors, encore une fois, la différence peut-être avec les pays communistes, c'est que ça ne concernait que les paramètres politiques. On ne s'intéressait absolument pas au reste, mais tout ce qui, dans les même les conversations, s'approchait de la politique, etc., était ou pouvait faire l'objet d'une surveillance.
Et alors, qu'est-ce qui change en 2011? Est-ce que l'appareil répressif est dissous à ce moment-là?
Non. En fait, ça peut paraître ambigu à certains, et au fond, c'est un petit peu logique. Effectivement, dès le 7 mars 2011, on a le troisième gouvernement provisoire, qui est dirigé par l'actuel président Béji Caïd Essebsi, et il prend une décision qui effectivement a une force symbolique, il dissout ce qu'on appelle la direction de la sécurité de l'État, qui est une des branches de la direction générale des services spéciaux, donc qui coiffe au fond une sorte d'ensemble des services de sécurité de renseignement au sein du ministère de l'Intérieur. Donc c'est une décision qui est forte sur le plan, pas seulement symbolique, parce que c'est vraiment l'organe de surveillance et de répression. Pour autant, cet énorme appareil, on peut presque dire tentaculaire, hein, qui est l'appareil de renseignement au sein du ministère de l'Intérieur, est maintenu en l'état. Il est maintenu en l'état, d'autant que la Tunisie post-révolution fait face à des défis qui sont des défis importants, notamment sécuritaires, avec la montée d'un terrorisme djihadiste, mais aussi d'autres aspects. Bien entendu, les effets de la crise libyenne et ses répercussions sur la Tunisie. Donc un environnement régional aussi dangereux et déstabilisé. Et naturellement, il n'est pas question de démanteler cet appareil.
Mais alors, entre 2011 et 2013, il y a d'anciens prisonniers politiques donc, qui étaient surveillés par ces organismes de sécurité, comme par exemple Ali Larayed, prennent des postes à responsabilité. Lui devient, je crois, ministre de l'Intérieur. Tout cela au nom d'Ennahda. Et là, il y a une suspicion de complaisance des services avec les groupes salafistes. Est-ce que c'est la réalité?
Alors, effectivement, c'est un peu une sorte de ruse ou une ironie de l'histoire. Au fond, c'est les personnes qui étaient l'objet même, presque de, enfin, qui étaient les cibles numéro un des services tunisiens avant la révolution, c'est-à-dire les islamistes, et notamment les militants et membres du mouvement Ennahda, accèdent aux plus hautes responsabilités, notamment dans le domaine sécuritaire, puisqu'on a effectivement Ali Larayed, qui est un prisonnier politique, qui est un membre très important du conseil de la Choura de Narda, qui accède au poste de ministère intérieur. Et alors effectivement, beaucoup de Tunisiens se disent, est-ce que c'est pas un peu dangereux au fond de laisser des gens dont on sait qu'ils ont quand même soupçonnent un projet de prise de contrôle de l'État, qu'ils ont un programme idéologique qui est quand même qui est très marqué. Est-ce que ça pose pas un problème, d'ailleurs pour d'autres formations aussi, de laisser de nouveaux dirigeants politiques, au fond, investir cet énorme appareil sécuritaire et, au fond, et s'en servir, alors peut-être de manière moins brutale et répressive qu'avant, mais avoir la tentation, au fond, avec un aussi bel outil de surveillance, de s'en servir à mauvais escient. Et effectivement, il y a des accusations, je crois, fondées, d'une tentative d'Ennahda de placer des gens à eux. Alors, ça peut être à un échelon élevé, de très haut responsable, mais aussi peut-être plus insidieux au niveau des fonctionnaires de base, etc. Mais quand même, dans l'ensemble, on constate qu'un certain nombre de très hauts fonctionnaires en charge de la sécurité et du renseignement sont maintenus en poste. Certains sont déplacés. Il y en aura quelques-uns, les plus emblématiques du régime Ben Ali, qui seront jugés, condamnés, d'ailleurs, qui ne resteront pas très longtemps en prison. Mais globalement, effectivement, là aussi, il y a la nécessité aussi de s'appuyer sur une forme de professionnalisme. Donc, il n'y a pas de grande purge ou de grande chasse aux sorcières.
Est-ce que, selon vous, l'attaque du musée du Bardo en 2015 marque un tournant pour les services de sécurité tunisiens?
Oui, incontestablement, c'est l'attentat le plus meurtrier qu'il y a sur le sol tunisien. Il y a eu celui de Gerba, de la synagogue de la Khreba en 2002, qui avait d'ailleurs pris de court cet appareil extrêmement puissant de l'époque de Ben Ali. Là, effectivement, il y a une prise de conscience, surtout que À cet attentat succèdent d'autres, hein, celui de Port El Gantaoui, l'attaque aussi à Tunis en fin d'année contre un bus de la sécurité présidentielle. Donc là, il y a une vraie prise de conscience qu'il y a un vide. On est passé du trop-plein sécuritaire à une forme un peu de vide. Alors, désorganisation, certes, démotivisation, et puis on constate aussi qu'il y a un problème majeur au sein de l'appareil de renseignement et de sécurité tunisien, c'est qu'il y a peu de mutualisation de coopération, parce qu'il y a quand même un volet militaire. L'armée tunisienne aussi est déployé dans ce qu'on appelle la contre-insurrection et que là-dessus, les choses fonctionnent mal. C'est un héritage du système du passé, hein. Et puis, effectivement, on constate aussi qu'il y a pu avoir des complaisances, une forme de laxisme de la part du gouvernement de la Troïka, dominé par Ennahda, vis-à-vis notamment des courants salafistes, et puis un manque de savoir-faire, au fond. On avait un appareil de renseignement qui était extrêmement bien aguerri pour, effectivement, surveiller les citoyens, prévenir certaines infiltrations, mais pas pour anticiper et éventuellement combattre le terrorisme sur son territoire.
Mais est-ce qu'on modifie ce système après 2015 ?
Oui, il y a une reprise en main dans une démarche assez volontariste et effectivement, on le voit notamment au sein de ce qui était la Direction Générale de la Sécurité Militaire. Cet organisme est étendu, hein, maintenant ça s'appelle l'Agence des Renseignements de la Sécurité pour la Défense, mais avec un champ de compétences beaucoup plus vaste et en intégrant aussi d'autres secteurs ministériels, notamment l'éducation, les affaires religieuses, etc. Vous voyez ? Et puis, plus récemment, hein, sous l'actuel gouvernement, enfin plutôt le premier gouvernement de l'actuel Premier ministre Youssef Chahid, il y a création d'un centre national du renseignement, hein, qui était une idée déjà qui avait été lancée dès 2013 et qui vise à assurer une coordination de l'ensemble de ces services de renseignement.
Et est-ce que la population tunisienne voit un changement dans la façon dont se comportent les personnes du renseignement de la sécurité ?
Je pense que la population tunisienne approuve cette consolidation, cette amélioration de l'appareil de renseignement. Pour autant, il y a, et ça sera peut-être le travail le plus difficile à accomplir, dans le comportement des fonctionnaires. Vous savez, il y a des habitudes, des inerties qui ont été prises, des formes de brutalité, d'arbitraire, d'arrogance, qui sont ancrées et qui sont effectivement encore assez mal vécues par les citoyens de base. Donc là, il y a un travail aussi. Et puis, il y a tout l'aspect état de droit. Alors ça, c'est peut-être aussi le défi le plus important pour ces appareils de renseignement. Maintenant, ils ne peuvent plus agir de manière discrétionnaire, comme cela était le cas avant. Ils sont obligés d'intégrer toutes leurs missions, y compris le travail de routine, dans le nouveau cadre de l'état de droit, c'est aussi la séparation des pouvoirs, et puis le contrôle judiciaire. Il y a beaucoup de réflexions, à la fois comportement avec les citoyens, là ça sera progressif parce qu'il y a beaucoup de mauvaises habitudes, et puis s'imposer de travailler dans un nouveau contexte du respect du droit, etc.
Merci Flavien Bourra, chercheur à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire à Paris.
Merci.
Votre article sur les services de renseignement en Tunisie à lire dans le dernier numéro de la revue Moyen-Orient qui sort en kiosque ce mois-ci. Darlet Layem, osmose entre rock metal et musique orientale, cet extrait du premier album du jeune groupe tunisien Navador. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem, où nous attendent Alexandre Boutchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, il est de nouveau question dans vos journaux de l'accord sur le nucléaire iranien.
Oui, on s'en doute, Eric, les Israéliens suivent avec attention et même avec inquiétude tous les développements liés au fameux accord sur le dossier nucléaire. Et voilà que l'on décèle ici un changement de direction de l'administration américaine. Donald Trump ne s'en cache pas d'ailleurs, puisqu'il affirmait que cet accord était embarrassant pour son pays. Israel Hayom, le journal proche du Likoud, le parti au pouvoir en Israël, et qui est d'ailleurs le quotidien au plus fort tirage, fait sa une sur cette question. Le journal cite des sources américaines selon lesquelles le président américain n'a pas l'intention de réentériner l'accord, comme il est tenu de le faire de manière périodique selon la loi américaine. Et il estime que les Iraniens ne respectent pas les clauses de cet accord et aussi qu'il ne sert pas en fin de compte les intérêts des États-Unis. L'amendement de l'accord, font remarquer tous les commentateurs ici, serait considéré comme une grande victoire pour le Premier ministre qui en avait fait son fer de lance et renforcerait donc la popularité de Benjamin Netanyahou.
Alexandre, c'est la visite du roi d'Arabie Saoudite en Russie qui fait la une de la presse du Golfe.
Oui, et pour la presse du Golfe, c'est une visite historique puisque, en fait, c'est la première fois qu'un monarque saoudien se rend au Kremlin. Alors, des journaux qui rappellent que les relations diplomatiques entre Riyad et Moscou remontent seulement à septembre 1990. C'était au lendemain de l'invasion du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein. Mais des relations qui ne se sont vraiment resserrées qu'après la visite du prince héritier Mohammed bin Salman en 2015, après l'accord américano-iranien sur le nucléaire. L'Arabie et la Russie ont beaucoup d'intérêts communs, notamment au niveau économique, puisque ce sont les deux plus grands exportateurs de pétrole du monde, estime un éditorialiste. Des intérêts militaires aussi, puisque l'Arabie a décidé d'acheter un système de défense anti-aérien russe, le S-400. De quoi pousser un commentateur à prédire un changement de l'équilibre stratégique au Proche-Orient.
Et toujours dans la presse arabe, Alexandre, le référendum au Kurdistan irakien continue à faire des vagues.
Oui, la presse continue dans son ensemble à rejeter les velléités indépendantistes kurdes. Toutefois, plusieurs éditorialistes commencent à prendre un peu de recul. Ils soulignent la contradiction qu'il y a entre la condamnation arabe des accords de Sykes-Picot qui ont divisé le monde arabe après la Première Guerre mondiale et la condamnation de la volonté kurde de remettre en question ses frontières héritées du colonialisme franco-britannique. À quelque chose malheur et bon, estime un commentateur, le référendum d'indépendance kurde poussera peut-être les gouvernements de la région à concevoir des États sur une base de citoyenneté égalitaire et non plus sur une base ethno-religieuse, reléguant les minorités à un rang secondaire.
Michel, des journaux israéliens pointent une punition collective anti-palestinienne après un attentat.
Oui, la semaine dernière, Israël avait décrété le bouclage total de la Cisjordanie pendant toute la période des fêtes de début d'année à la suite d'un attentat qui avait fait 3 victimes israéliennes. Alors c'est un bouclage pour 11 jours consécutifs, une mesure sans précédent. Depuis, le gouvernement israélien a fait machine arrière et a permis le passage partiel de travailleurs palestiniens. Le quotidien Haaretz consacre un éditorial à ce volte-face et le titre en dit long. Un bouclage en forme de punition collective? Non, pas quand la droite israélienne a besoin de main-d'œuvre palestinienne à bon marché.
Et puis Michel, il est encore question de la guerre d'octobre 73, lorsqu'Israël avait été pris par surprise par l'Égypte et la Syrie.
Cette fois, c'est le supplément hebdomadaire du quotidien Mariv qui est consacré au président Anwar Sadat, mais pas le Sadat qui a fait la paix avec Israël, celui d'avant la guerre, que l'on appelle la guerre de Kippour ici. Même 44 ans après, les Israéliens estiment, l'auteur de ce dossier, n'ont toujours pas compris à quel point les services de renseignement israéliens ont été dupés par Sadat. Le journal tente d'analyser pas à pas la démarche qui aboutit sur l'effet de surprise et aussi sur le piège dans lequel Israël est tombé le 6 octobre 1973.
Alexandre, le site du journal Al-Quds Al-Arabi publie la vidéo de la première Saoudienne à acheter une auto.
Oui, une jeune femme très jolie, toute de blanc vêtue, et un peu comme une mariée le jour de ses noces, qui laisse exploser sa joie au moment d'entrer chez un concessionnaire automobile. On la voit hésiter entre différents modèles avant de trouver son bonheur. Une imposante Bentley Lidovin, 0 km compteur et 200 000 euros sur la facture. Quand on aime, on compte pas. Les journaux précisent que même si l'Arabie n'a pas encore commencé à délivrer des permis de conduire aux femmes, de nombreuses Saoudiennes ont obtenu leur permis dans des pays comme les Émirats ou le Koweït et peuvent donc déjà piloter.
Mais uniquement des Bentley, semble-t-il. Pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour.
Eh bien, ce sont des photos de masques de clowns. Depuis quelques jours, Eric, le phénomène des clowns violents est arrivé en Israël. Des individus qui se déguisent en clowns et attaquent le plus souvent des enfants.
Affaire à suivre, évidemment. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani, que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans une poignée de secondes, un nouveau journal d'information.